Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivia Rosenthal. On est ravis de vous accueillir dans Effraction pour ce chantier de fouilles qui en sera absolument un parce que nous allons entrer un peu dans votre laboratoire à base de photographies aussi que vous avez gentiment prêté au festival pour qu'on puisse faire ce travail-là de cheminement dans votre œuvre et dans votre laboratoire. Certaines de ces images aussi ont été fournies par Jean-Baptiste Gendarme de la revue Décapage, que j'ai plus le numéro à la main, mais il y a eu un dossier vous concernant, c'est quelque chose qu'ils font souvent, à chaque numéro, où un auteur ouvre aussi son laboratoire. C'est tout à fait agréable et recommandable. Donc, au passage, merci à eux et je vous signale cette revue si vous ne la connaissez pas. Et on va parler et partir de ce dernier roman paru en septembre à la rentrée littéraire qui s'appelle Éloge des bâtards, qui est, j'ai reconté, votre 12e livre chez Vertical. Sachant qu'il y en a eu chez d'autres éditeurs, des formes hybrides, des formes de récits, de documentaires, avec des images, parfois du théâtre aussi. J'emploie à dessein le terme hybride parce que l'hybridation me semble au cœur de votre travail. Depuis longtemps, notamment depuis On n'est pas là pour disparaître, cette phase-là à partir de 2007, où l'hybride, ça a été aussi de collaborer avec un certain nombre d'artistes d'autres disciplines. Et on va le voir un petit peu dans les images, c'est-à-dire que vous avez fait des performances avec des poètes, avec des chorégraphes, avec des comédiens, avec d'autres auteurs, avec une danseuse, avec des comédiens de théâtre aussi, avec des étudiants du master, je pense parfois, du master de création de Paris 8, étudiants qui sont venus aussi faire des choses dans le cadre du festival. Donc l'hybride, c'est au cœur de votre travail depuis longtemps. Et hybride en quoi? Au sein même des livres, depuis par exemple On n'est pas là pour disparaître, qui traitait, si l'on peut dire, ou creusait la question de la maladie d'Alzheimer en inventant un dispositif formel à base d'assemblage de textes de différentes factures, de différentes formes, des textes aussi bien techniques que médicaux, que des exercices de mémorisation qu'on donne aux malades d'Alzheimer. Et donc, c'était une manière de construire une forme de récit qui ne négligeait pas l'intime, donc qui touchait intimement son lecteur, mais en passant par d'autres voies. Il y a une forme de ruse dans vos installations textuelles pour dire quelque chose de... Le festival est consacré au réel de ce qu'est notre intimité la plus profonde, mais le dire d'une façon toujours détournée, changeante et sans doute étonnée elle-même. Je pense aussi, pour ce qui est des hybridations de formes textuelles, à Où vont les reines après Noël, qui est un livre qui vous a valu le prix du livre Inter.
Alors c'est... Ah, ça marche, ça? Vous m'entendez?
C'est pas où vous, on est reines
moi,
après Noël,
j'entends
je
pas.
Dis de mémoire.
Alors déjà, c'est que font les reines après
que
Noël?
Que font les reines après Noël?
Bien sûr, non mais c'est bien, parce que où vont, que font, bon. Et j'ai remarqué, en fait, à chaque fois que, j'ai proposé des titres, ça donne lieu à des interprétations très diverses, c'est-à-dire qu'en fait, ce titre, c'est jamais le titre que j'ai donné, et ça, j'aime bien. En fait, parce que par exemple, On n'est pas là pour disparaître, ça donne Nous ne sommes pas là pour disparaître, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, Que font les reines, ça donne Où vont les reines, etc. Il y a plein de variations et je me dis qu'au fond, il y a une des choses que les œuvres produisent, c'est ça aussi, c'est le fait qu'elles sont transformées, que la mémoire les déforme. C'était déjà le sujet de On n'est pas là pour disparaître, mais en fait, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, comment. On intègre des œuvres dans notre expérience et comment cette intégration les transforme et comment on est obligé en quelque sorte à chaque fois, même qu'on lit un livre, de le réécrire. Donc en fait, Guénaël, qui en plus fait semblant de ne pas me connaître parce qu'il me vouvoie alors qu'on se connaît depuis 20 ans, donc c'est très très bizarre pour moi d'avoir quelqu'un qui me vouvoie.
Pardon.
Mais apparemment, ça fait partie de la...
Ça fait partie de la règle. Contrat.
Donc, Guénaël a transformé...
J'y suis parvenu presque à chaque fois. À un moment, donc, j'ai tutoyé Arnaud Bertina.
Est-ce qu'on continue cette pièce de théâtre Moi, je veux bien, hein, mais c'est un peu bizarre quand même.
On peut se mettre à se tutoyer.
Je crois que Guénaël, ça fait partie en fait de la pratique de la.
Oui,
de
c'est ça.
Comme vous voulez.
Comme vous voulez, Guénaël. Contrat avec le public. Bon, allons-y, ces sons-là. Jetons les masques.
Jetons les masques.
Chère Olivia, oui, donc c'est un travail que je suis aussi personnellement depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Et donc, sur l'hybridation, tout de suite, je vais plus vite en plus, merci. Ça m'a sans doute autorisé à quelque chose. Sur l'hybridation, que font les reines après Noël, par exemple, s'intéresser à la question animale, entre autres choses, parce que vos livres parlent toujours d'un certain nombre de choses multiples, mais vos livres, hein, mais vous êtes plusieurs. Olivia, Rosenthal, enfin, toutes. Lily, tout ça, tout le monde. Les livres d'Olivia parlent toujours d'au moins deux choses différentes. Il y a toujours une confrontation de deux objets ou sujets qui produisent quelque chose. Et évidemment, à l'intérieur de ça, il y a des jeux de formes. Donc, que font les reines après Noël utilisaient pour traiter de la question animale et produire un récit d'émancipation. D'une émancipation par rapport au genre, par rapport à la famille aussi, par rapport aux destinées, utilisait beaucoup de documents techniques et d'interviews. On va y venir aussi, puisque la question de la voix est au cœur de ton travail. Du coup, j'arrive pas à y revenir là.
Non, mais tu peux garder le vouvoiement, mais moi, je vais le tutoyer, donc vous allez comprendre qu'il y a une dissymétrie comme ça.
Ouais, c'est un exercice
pas grave,
qu'on fait, on est concentré. J'espère que ça. C'est...
Non, mais
du coup, je suis
comme...
sur le vous, je vais continuer, je suis désolé. Du coup, je vais me mélanger. Mais c'est pas grave. Après tout, c'est éloge des bâtards. Et puis, voilà, éloge du mélange, du métissage. Et je voulais citer aussi, à titre d'exemple, Le Vertige et Toutes les femmes sont des aliens, sans erreur, qui sont représentatifs de ton intérêt pour le cinéma et de la façon dont des films ont compté, ont produit des performances, puisque Vertige, par exemple, a été longtemps surtout une performance, a été un film et est devenu quelque chose à l'intérieur d'un livre. C'est ce que tu disais sur les formes artistiques aussi qui changent, qui mutent, qui reviennent, qui se font signe. Et j'ai apprécié Éloge des bâtards pour ça aussi, parce qu'il fait un point nébuleux. Il fait un point sur cet ouvert-là. Des choses nous font signe. À la toute fin, il est question d'un film qui faisait la couverture dont l'image faisait la couverture du dernier, Mécanisme de survie en milieu hostile. Le film, par contre, ça va m'échapper. C'est une histoire d'enfant blanc.
C'est un film qui s'appelle Le Village des damnés. Et en fait, donc, Le Village des damnés, c'est un film sur des enfants qui sont des extraterrestres et qui donc sont susceptibles de lire dans la pensée des gens qui sont en face d'eux. Et c'est un pouvoir très négatif, en fait, puisque leur objectif, évidemment, c'est de prendre le pouvoir et de s'emparer, en fait, de la Terre. Donc voilà, c'est des envahisseurs. Donc c'est vraiment un film de série B des années 60. Et j'avais utilisé l'image de une des images où on voyait ces enfants blonds, très beaux, très parfaits, etc., mais en fait assez inquiétants. Cette image, on l'avait utilisée pour la couverture du précédent livre qui s'appelle donc Mécanisme de survie en milieu hostile. Et on l'avait utilisée parce que Mécanisme de survie, c'était un livre sur un personnage qui fait des expériences aussi très limites, des expériences qui le mettent en situation d'inquiétude lui-même. Et c'était aussi l'idée que... c'était des expériences d'adultes et des expériences d'enfants. Et ce personnage, on comprenait en fait que son enfance, finalement, ça pouvait être une enfance assez, peut-être un peu difficile, avec cette idée, effectivement, que finalement, les enfants ne sont pas tout à fait ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en eux qui sont très étranges, ils ont des pensées qu'on ne connaît pas, enfin voilà. Donc j'avais gardé cette espèce d'image comme ça, qui n'avait pas une relation directe avec le livre, mais qui faisait une belle couverture pour Mécanisme de survie en milieu hostile. Mais comme c'est un film qui occupe assez... qui me hante, on va dire. C'est un film qui fait partie de, on va dire, presque de mon histoire. Comme, voilà, il y a certains films qui font peut-être partie de votre histoire, et voilà. Eh bien, ce film, et c'est ça, il est revenu pour le livre Éloge des bâtards, sachant que ce qui m'intéresse aussi dans la littérature, pas seulement celle que j'écris mais aussi celle que je lis, c'est justement de travailler sur ces choses qui reviennent. Et ces choses qui reviennent, c'est des images, c'est aussi des gens, c'est des disparus, c'est ce que j'appelle des revenants aussi. Bon, alors des revenants, ça peut être des morts, mais pas forcément. Et donc il y a cette chose-là sur laquelle j'aime bien surfer ou continuer à glisser, c'est-à-dire d'essayer d'accepter en fait, dans un livre qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec le village des damnés, d'accepter le retour de ces images et de voir comment on peut les faire entrer comme ça dans un livre qui parle de tout à fait autre chose, a priori.
Et il est question aussi à un moment des Parapluies de Cherbourg, qui est un livre qui a fondé, qui est un film qui a fondé et des performances et un autre petit livre chez Vertical. Et donc, pour ce qui est du village des damnés, là je vais faire un peu le pitch parce qu'on n'a pas encore dit de quoi ça parlait cette affaire des loges des bâtards, de comment ça se passe. Il apparaît à la toute fin, il est cité à la toute fin alors qu'il donne une des premières entrées narratives du livre, une de ses idées du fait de l'envahissement des pensées, la lecture des pensées de l'autre et des formes de télépathie, c'est l'introduction du livre. C'est-à-dire qu'il y a une narratrice qui s'appelle Lily, qui nous dit qu'elle a ce pouvoir qui est aussi encombrant qu'autre chose, d'être investie par les pensées, par les paroles des autres, les paroles intérieures en fait. On démarre là-dessus, et puis ensuite il est question des autres, c'est-à-dire il y a un premier chapitre d'introduction, et ensuite c'est organisé en 5 nuits où Lily et un groupe d'autres gens qui s'appellent Sturm, Masha, Clarisse, Fox, Gel, Filas, Foul et Oscar se racontent les uns les autres. À reculons au départ, parce qu'il est surtout question de silence, on sait qu'ils se retrouvent pour une forme de conspiration silencieuse au cœur de la ville. Les nuits sont ponctuées d'une autre forme de texte en italique qui pourrait être... comme d'ailleurs des tags au mur ou des formes de chansons entre les de refrains de litanie entre les chapitres qui finissent par toujours une phrase autour de saturer la ville de signes invisibles. Et donc on comprend qu'ils ont cette forme de complot assez indéfini et qu'ils doivent faire attention à pas se faire prendre parce qu'ils essaient de subvertir quelque chose de la ville. Et tout ça est nocturne et à un moment ils commencent à se livrer les uns les autres, à se raconter. Et ça, c'est Lily, la narratrice, qui nous le raconte. Au départ, elle nous le raconte, et puis à la toute fin, il se passe un certain nombre de choses, donc je ne spoil qu'une partie narrative, à la toute fin, elle se met à pas seulement raconter, mais à raconter l'histoire de l'autre, puisqu'on y revient à ce pouvoir qui est énoncé au début. Elle leur avoue qu'elle peut, en fait, rendre leurs paroles à ses comparses avant même qu'ils les aient énoncées. Donc ce livre, c'est cet enchâssement de vie qui se raconte, de vie de bâtards. C'est elle-même qui les nomme « Nous serons les bâtards ». Elle le garde pour elle au départ et puis elle essaie de leur proposer comme titre de groupe d'affiliation. Donc on revient au titre parce que les vies qui nous sont racontées sont des vies singulières. C'est un peu long, hein, j'espère que c'est pas trop long, mais sont des vies singulières au sens où... où elles sont toutes en ligne brisée. Il y a toujours des généalogies rompues. Et ce qui est mis en cause, c'est la filiation, en somme. Enfin, la filiation au sens linéaire du terme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que chacun des personnages, lorsqu'il se raconte, a une biographie faite de trous autant que de pleins, de diverses manières. Et là, on retrouve quelque chose aussi qui est frappant dans ton travail depuis le début, c'est une remise en cause de la famille en tant que fiction normative. Non pas à bas les pères, les mères, les enfants, tout ça existe, tout ça est là, mais tout ça est bien trop normatif et bien trop enfermant. Et donc le livre travaille vraiment ça, et très littéralement, il y a un éloge des bâtards. C'est-à-dire qu'on y vient par sinuosité, mais notamment la toute fin forme un éloge au premier degré, hein, pour le coup, de ça, de ce que nous avons tous d'orphelins en nous. La part orpheline manquante, on revient au revenant, nous sommes constitués, en tout cas ces personnages-là, et c'est ce qu'ils disent, sont constitués autant de ce qui leur manque que de ce qui est là. Et donc ce livre, à mon avis, j'ai parlé de la famille, il est également question de la ville, hein, qui est un motif que tu as beaucoup exploré dans les livres. Et puis il est également question de voix, puisque ce sont des voix qui se racontent. Et dans les 15 dernières années de ton travail, il y a eu tout un travail autour des voix. On va se poser la question à un moment. Notamment, tu as enregistré souvent des témoignages. Et là, je me demandais quelle en était la part. Parce que depuis plusieurs livres, j'ai l'impression aussi que ce qui procédait beaucoup par cut dans On n'est pas là pour disparaître, reprend une forme beaucoup plus longue et plus ample. C'est-à-dire que la voix est toujours un motif fondamental, enfin un socle, mais c'est réarticulé dans une forme de vague un peu plus ample. Et du coup, je vais en faire une question de ça. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que ça résulte d'un travail organisé ? Le fait de revenir du fragmentaire, de rassembler le fragmentaire ?
Alors, merci Guénaël pour avoir essayé de résumer le livre. Comme vous avez compris, c'est assez difficile à faire. Et je vais répondre à ta question, mais je voulais insister sur le fait que c'est un livre qui, dans lequel des personnages se réunissent pour agir. En réalité, c'est des activistes qui agissent la nuit. Et donc, ils veulent commettre des effractions, pour reprendre le titre du festival. Et ils veulent commettre des effractions dans la ville, c'est-à-dire ils veulent produire des effets sur la manière dont la ville est organisée. Et ils veulent qu'on regarde la ville un peu autrement. Donc, ils ont des objectifs assez précis. Et ils proposent des actions parfois très simples, mais parfois assez délirantes, qui visent à changer le rapport qu'on a avec la ville dans laquelle on vit. Donc ça, c'est un peu leur objectif. Et en fait, lors de leur rencontre, ils vont se mettre effectivement, comme tu disais, à parler de quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec leur activité politique. Mais j'avais quand même en vue de raconter quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un collectif. J'avais en vue l'idée de travailler sur cette parole collective. Qu'est-ce qui fait qu'une parole collective est possible à un moment donné ? Et si le livre raconte quelque chose, c'est aussi quelque chose sur le fait que peut-être qu'il fut un temps où la parole collective, c'était quelque chose qui était une réponse à un mot d'ordre, qui était une manière de construire du commun. Mais peut-être qu'aujourd'hui, une parole collective, c'est autre chose. Peut-être que pour fabriquer du collectif, il faut qu'on écoute un à un les récits qu'on a à raconter et qu'on fabrique non pas du collectif commun, mais du collectif qui serait fabriqué avec une chaîne de récits. Et donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de personnages qui apprennent à former un collectif en s'écoutant les uns les autres raconter leurs histoires personnelles. Histoires personnelles qui, a priori, n'ont rien à voir avec la question politique, sauf qu'en vérité, finalement, c'est aussi l'idée que pour faire de la politique, il faut passer par l'intime. J'ai envie de dire, voilà, si j'essaye de... Et donc ces personnages, et ils vont, à l'occasion de leur de cette espèce de déclaration dans laquelle ils vont raconter leur histoire, ils vont se rendre compte, mais c'est au cours du récit qu'ils s'en rendent compte, qu'ils sont tous liés par quelque chose d'autre que leur envie d'agir dans la ville. Ils sont aussi liés par leurs histoires familiales. Donc c'est là que l'histoire des bâtards devient centrale, parce qu'ils se rendent compte, mais finalement ils le découvrent. Et comme on découvre des fois, quand on a des amis, parfois on découvre qu'ils sont tous nés en juin, par exemple. Ou on découvre que c'est bizarre, on n'aime que les gens qui sont grands, etc. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble depuis longtemps, en vérité, quand le livre commence. Et à un moment donné, ils se rendent compte que quelque chose d'autre qu'ils n'avaient pas prévu les lie depuis très longtemps. Et en fait, c'est leur histoire familiale. Alors, j'ai envie de dire que, et ça va permettre de parler des entretiens, j'ai envie de dire qu'il y avait une raison, on va dire, extérieure au livre qui faisait que j'avais envie d'écrire ce livre. C'est qu'en l'occurrence, dans ma vie personnelle, j'ai découvert que j'étais entourée par des bâtards. Que, en fait, voilà, mais tous mes proches, enfin, pas tous mes proches, mais beaucoup, bâtards avec mille guillemets, hein, mais bon. Je me suis rendu compte, en fait, que ma vie amicale, amoureuse, etc., c'était était liée à des gens qui étaient des bâtards. Donc je me suis un peu questionnée sur les raisons pour lesquelles j'avais élaboré tous ces liens avec tous ces gens qui ont des histoires rompues. Et au fond, j'ai envie de dire que le livre est une sorte de réponse à cette question. En écrivant ce livre, j'ai essayé de m'expliquer à moi-même ce que je fabriquais, moi, Olivia, mais donc moi, Lily, puisque c'est le personnage du livre, avec tous ces bâtards. Voilà. Et donc, là c'est maintenant que je réponds à ta question, et donc j'ai fait un travail que j'avais jamais fait avant pour ce livre, c'est que oui, j'ai interviewé des gens, d'habitude j'interviewe toujours des anonymes, c'est très important et très facile aussi d'interviewer des anonymes, parce que voilà, on se voit une fois et on va dire que ça n'a pas de conséquences. Même si les livres qui sont ensuite fabriqués, je les envoie à ces gens, et peut-être pour eux ça peut avoir des effets quand même. Mais là, la chose un peu particulière, c'est que j'ai interviewé des gens que je connaissais, et parfois très bien, et j'ai décidé de faire le même protocole que d'habitude, c'est-à-dire vraiment de faire un entretien enregistré, et où je leur pose des questions sur des choses que, finalement, je connais un peu, mais pas tant que ça, parce que c'est assez rare qu'on parle avec ses amis pendant des heures, puisque les entretiens durent longtemps, c'est assez rare qu'on parle de notre histoire familiale, de manière aussi détaillée, en fait. Et donc, c'était une espèce de rituel assez particulier. Et c'est pour ça que le livre a été assez difficile à écrire, quand même, parce qu'il fallait ensuite rendre compte de ces histoires dans un récit, mais avec cette inquiétude, quand même, du fait que des amis proches allaient lire ce livre et que peut-être ça allait modifier un peu les relations que nous entretenions, parce que, bien sûr, les entretiens sont enregistrés, bien sûr, ils sont transcrits, mais après, quand ils sont insérés dans le livre, ça devient quand même un peu autre chose. Et donc, cette manière de transformer, et donc de trahir quand même la personne qui vous parle, c'est quelque chose qui est toujours, qui continue à être une question qu'on se pose quand on fait ce travail d'écriture-là, que je m'étais déjà posé, bien sûr, tout le temps, à chaque fois que j'ai fait des entretiens, mais qui là prenait une forme un peu plus aiguë.
Et d'autant plus que là, il se retrouve à porter les voix de personnages, ce qui n'était pas forcément le cas dans le traitement des entretiens dans les livres précédents. C'est-à-dire que c'était des voix, effectivement des voix à la fois parfois institutionnelles, un peu neutres, donc du coup un peu plus indéfinies, tandis que là c'est des personnages qui se construisent, c'est des personnages avec des rapports entre personnages, donc du coup il y a une transposition différente aussi.
Oui, parce que en fait c'est aussi l'idée d'écrire des livres qui bien sûr, ils sont fabriqués les uns à la suite des autres, et donc les choses résonnent les unes avec les autres, mais c'est aussi l'idée d'essayer de changer, en fait, à chaque fois, pas à chaque fois, mais si possible un peu, le rapport que j'entretiens avec l'écriture. Et donc le rapport aussi que j'entretiens avec les protocoles que j'utilise. Donc là, dans le changement, je vous ai dit l'idée de m'entretenir avec des proches, ça c'était très important. Mais il y avait une autre chose que tu dis, c'est l'idée pour la première fois de construire des personnages en nombre, puisqu'il y en a 9, ça j'avais jamais fait, d'essayer de faire vivre ensemble 9 personnages différents. Bon, donc toute une aventure d'écriture qui m'a beaucoup intéressée, mais qui était aussi assez difficile. Et puis aussi, puisque ce sont des personnages, leur donner des noms. Donc vous les avez entendus, Gel, Sturm, Macha, hein, qui sont des noms dont ils disent eux-mêmes que ce sont des noms d'emprunt. Donc ce sont des noms qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, si on peut dire, même si c'est bien sûr moi qui les ai fabriqués, mais quand même, le fait de trouver des noms, et le fait qu'ils gardent ces noms-là pendant tout le livre, et le fait qu'ils s'appellent les uns les autres par leur nom, donc le jeu, on va dire presque sonore, sur la présence de ces noms dans le livre, ça aussi c'était quelque chose que j'avais jamais fait, et donc ça c'était aussi une... C'est ça qui est plaisant dans l'écriture aussi, c'est le fait d'essayer des choses nouvelles. Peut-être que pour certains écrivains, c'est déjà quelque chose de finalement d'assez facile. Alors pour moi, c'était une chose assez difficile et que j'ai essayé de faire en pensant ces noms, non seulement comme des représentants des personnages, mais aussi comme presque comme des objets sonores. Et la troisième chose qui était complètement nouvelle pour moi dans ce livre par rapport aux autres, c'est que c'est un livre qui est presque entièrement écrit en style direct. Pas absolument, mais Donc l'idée, c'est que les personnages, ils parlent avec des tirets, hein, voilà, ça y est, ils parlent, quoi. C'est-à-dire que brusquement, ben ça c'est... Donc d'essayer de faire du dialogue aussi, en évitant, parce que c'est très difficile le dialogue dans les récits, je trouve, et moi j'ai vraiment du mal dans les romans où ils disent « dit-il, répondit-il, rétorqua-t-il, répliqua-t-il, pensa-t-il, en disant... » Enfin, vraiment, je trouve que c'est cette mécanique, je la trouve un peu lourde. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus, c'est-à-dire de voir comment on peut fabriquer des univers de style direct où les gens se parlent les uns aux autres en essayant d'éviter cette chose-là. Et donc là aussi, c'était assez stimulant en termes de travail d'écriture, d'être dans cette recherche-là et donc de faire un livre... quand même comme les autres, mais un peu plus, de faire un livre dans lequel il y a plein de personnages, en fait, qui parlent et qui se racontent des histoires, en fait. Parce que ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est aussi simple que ça, aussi. C'est, raconte-moi ton histoire, ça a commencé comme ça. La chose qui est particulière, c'est que quand on raconte son histoire devant plein d'autres personnes, c'est pas la même chose que si on le raconte un à un. Et donc là, dans ce livre, il y a 5 nuits, et pendant 5 nuits, il y en a un qui raconte une histoire aux autres. Et les autres, ça leur fait quelque chose. C'est pas juste quelqu'un qui raconte une histoire. C'est aussi l'histoire de gens qui écoutent. J'ai envie de dire qu'au fond, le collectif, c'est pas seulement fabriqué par la parole, mais c'est aussi fabriqué par l'écoute. Et que, en fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi de travailler sur ce que ça produit sur les autres personnages, le fait que l'un soit capable de raconter une chose si intime sur lui-même. Et ça produit des tas de choses sur les autres personnages qui, et donc ça c'est dit par des tas de répliques, c'est-à-dire ils se mettent tous à parler un peu les uns après les autres, et donc moi je voulais un peu travailler sur cette espèce de symphonie là, enfin parfois un peu discordante, mais voilà, ils racontent une histoire à tout le monde et donc les autres réagissent et ça produit, en fait c'est ça qui produit finalement du collectif, c'est le fait que chacun réagit, rétorque, mais c'est pas écrit rétorqua-t-il, mais enfin.
Oui, c'est plutôt des répliques comme voilà. Au théâtre, c'est-à-dire en tout cas ça se répond et
c'est ça. Et donc ça construit quelque chose finalement comme un grand lieu de parole, en fait, et aussi avec l'idée que c'est pas seulement un éloge des bâtards, je pense que c'est un peu un éloge de la parole, avec cette idée que c'est en parlant que les choses se font. Et par exemple, à la fin des chapitres, il y a donc des actions dont on ne sait pas si ce sont des actions qu'ils ont faites, qu'ils vont faire, pour certaines, mais on pourrait dire que...
Elles sont parfois au futur, pour certaines, parfois au conditionnel,
parfois
au présent,
parfois
au passé.
On pourrait dire que c'est la parole qui les active, en fait. C'est le fait que tous ces personnages aient parlé et raconté quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec leur action politique, qui rend, en fait, l'action possible. Donc je crois en fait que c'était une sorte aussi de... Enfin, je l'ai écrit sans le savoir, mais maintenant que j'essaye de réfléchir un peu à l'objet, je me dis au fond c'est une certaine manière d'envisager la politique dans ce livre. C'est-à-dire aussi de dire que pour faire de la politique, oui, il y a bien un moment, il va falloir qu'on parle de sa famille. Parce que c'est comme pour moi, c'est comme une sorte d'incontournable. Bon, c'est ce que tu disais, c'est déjà dans mes autres livres, mais... On ne peut pas faire l'économie du rapport qu'on a avec sa famille. Que ce soit un rapport apaisé, que ce soit un rapport conflictuel, etc. Parce que la famille construit, au fond, un modèle. Et qu'on est, à un moment donné de notre vie, on doit se placer par rapport à ce modèle. Donc c'est vrai que je l'ai déjà fait dans Que font les reines après Noël, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui a des relations très apaisées, mais vraiment trop apaisées avec ses parents. Et là, c'est l'histoire de personnages qui ont des relations pas du tout apaisées avec leurs parents, ou alors qui n'ont pas de relations avec leurs parents puisqu'ils ne les connaissent pas. Et donc, qu'est-ce que ça produit comme type de réaction, de manière d'être dans le monde ? C'est ça aussi qui m'intéressait, sachant que, là encore, bâtard, je me suis amusée avec bâtard, mais en fait, il n'y a pas de modèle au sens... Il n'y a pas une manière d'être bâtard, il y en a autant que de personnes... Et les réponses que chacun trouve, par exemple, quand il y a plusieurs personnages qui n'ont pas de père, bon, bah, y en a qui vont aller chercher leur père, puis il y en a d'autres qui ne vont pas y aller, quoi. Et c'est-à-dire que c'est aussi ça que fait la littérature, c'est qu'elle, c'est pas un manuel de développement personnel où on va enfin savoir si, quand on n'a pas eu de père, il faut aller le chercher ou non. Ça, on va pas savoir parce qu'en fait, j'ai envie de dire que chacun bricole ses réponses et que c'est ça en fait qui m'intéresse aussi. C'est
de la même manière qu'ils font des installations et qui un éloge des ZAD pour ces raisons-là, ils bricolent aussi ça. Enfin, voilà. Ils bricolent leur rapport à la famille, à la généalogie, au patrimoine et au matrimoine. On a pas mal parlé des voix et on a des images. Et oui, on a des images. Et donc, hop, normalement ça marche, oui, c'est comme ça. Hop, voilà, ça par exemple.
Donc ça, c'est une exposition qui a lieu à Arles et qui... J'étais obligée de faire comme ça parce que sinon il y a des problèmes de droit. Donc c'est un photographe qui s'appelle Michael Wolf qui a vécu très longtemps à Hong Kong et qui a donc photographié sa ville, puisqu'il habitait là. Donc ça, c'est une des photographies. Il y en a une série, il y en a peut-être une autre, non ?
Oui, il y en a plusieurs.
Et en fait, ça a été... Bon, j'avais déjà commencé à écrire le livre quand...
Non, c'est pas ça.
J'avais déjà commencé à écrire le livre quand j'ai vu cette exposition. Donc ça, c'est aussi une photo de Hong Kong, mais ça, c'est moi qui l'ai faite. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait de la même qualité, hein. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce travail et dans cette ville, c'est justement le rapport entre une ville extrêmement moderne et le fait que dans cette ville, il y a quand même plein d'espaces intermédiaires dans lesquels les gens essayent de s'installer un petit peu. Et donc la ville que je décris dans mon livre, c'est une sorte de ville comme ça, c'est-à-dire à la fois une ville ultra moderne avec des tours, avec de la vidéosurveillance partout, etc. Donc une ville aseptisée, mais en même temps dans laquelle les habitants, pour y habiter, il faut bien qu'ils trouvent des moyens de salir, si je puis dire, leur ville, ou de produire des effets sur la ville. Donc Hong Kong, pour ça, c'était un bon exemple. Et Michael Wolf, ça, on l'a pas dans les images, mais il a fait un travail à Hong Kong qui m'a beaucoup touchée et inspirée. C'est qu'en fait, il a été dans les petites ruelles et il a d'abord, il a photographié des petits endroits où les gens s'installent. Alors, ils mettent des balais, ils mettent des cuvettes, ils mettent des cartes. Enfin, il y a toute une petite vie qui s'installe là. Et pour ça, il s'installe sur des chaises. Et souvent, c'est des chaises qui sont des chaises à moitié détruites, mais qu'ils ont rafistolées. Donc, c'est des chaises uniques, en fait. Parce qu'elles ont un morceau de plastique là, parce qu'elles ont des morceaux en bois, parce que l'assise a été refaite, parce que ci, parce que ça. Et donc, ce qu'a fait Michael Wolf, c'est qu'il a fait une collection de ces chaises. Donc, il les a photographiées, mais il y en a aussi récupéré des centaines, apparemment. Donc, je ne sais pas où il les mettait. Et dans l'exposition qu'il y avait à Arles, donc il y avait un plateau comme ça avec une dizaine de chaises. Et en fait, ça s'appelait le plateau des chaises bâtardes. Bon, CQFD. C'est-à-dire vraiment, bâtard, ça veut dire vraiment fait de briques et de broc. Mais bâtard, ça veut dire aussi un peu indestructible. Parce qu'en fait, ces chaises, elles sont là, elles vont continuer à vivre. Et donc voilà, c'était une chose qui m'a beaucoup travaillé quand j'écrivais L'éloge des bâtards. Donc ça, c'est une autre photo de Hong Kong. Donc vous voyez, en fait, là, bon, ce qui me plaisait, c'était que c'est des photos sans... Il n'y a pas de hors-champ, en fait. C'est du plein, quoi. C'est du plein absolu. On ne sait même plus ce que c'est au bout d'un moment. Voilà. Ouais, mais ça va être compliqué à expliquer. Alors, il faudrait que tu montes... Non, ça, c'est une photo de...
Voilà. Ça, peut-être que ça s'apparente plus à ce dont on était en train de parler, même si c'est hors du chantier, sur le rapport à la ville, non ?
Donc, voilà. Si on parle du rapport à la ville, cette histoire des villes... Donc, en fait, dans le livre Éloge des bâtards, j'ai beaucoup travaillé sur les descriptions des lieux où les personnages se rencontrent. Et ils se rencontrent toujours dans des lieux qui sont des lieux un peu, effectivement, clandestins. Tu parlais de conspiration, secret... Et donc, ils se rencontrent, alors, des fois dans des appartements, mais ça peut être dans des sous-sols, enfin voilà. Donc, j'ai un peu exploré ce domaine-là, l'idée d'une ville dans laquelle il y a des espaces intercalaires. Et sans doute que ça vient de tout un travail que je fais depuis assez longtemps sur les lieux. Et donc là, on voit un exemple d'un travail que j'ai fait sur la ville de Brest. Donc, à la ville de Brest, il y a un quartier qui s'appelle Pontanezen, qui est légèrement excentré. Et dans ce quartier, j'ai, avec un graphiste et plasticien qui s'appelle Philippe Bretel, on a fait un travail à partir d'entretiens qu'on a fait avec les habitants. Donc, on s'est entretenu assez longtemps avec les habitants du coin. On les a questionnés sur leurs usages de la ville, puisque c'était le tramway qui allait venir, donc sur leur trajet, sur leurs usages de la ville. C'était vraiment sur le mouvement. Et puis, là, on ne voit pas, parce qu'à partir de ça, on a fait donc, ces deux murs, qui sont des murs permanents. Donc, on voit un peu, mais on ne comprend pas tout à fait tout sur ce mur, parce qu'en fait, il fallait avoir une petite... une petite carte postale qu'on plaçait à un certain endroit, à une certaine distance de ce mur, et grâce à laquelle on voyait les lettres complémentaires qui n'apparaissent pas ici, et on comprenait l'ensemble du texte. Et derrière ces cartes postales, qui étaient au nombre de 8 ou 9, on avait aussi des petits textes qui étaient, on va dire, les choses que les gens m'avaient racontées sur leur ville. Donc voilà, c'est un exemple de... aussi, non seulement d'intérêt que j'ai pour la ville, mais aussi du fait que la ville, elle est constituée par les paroles de ceux qui l'habitent. Et que ça, c'est déterminant, en fait, dans le travail que j'ai envie de faire, en général, en littérature, cette idée que c'est important d'en passer par les expériences des gens eux-mêmes, parce qu'ils ont des choses à raconter qu'on n'imagine pas, en fait. Et que, comme je dis souvent, je n'ai jamais été déçue par aucun entretien que j'ai pu faire avec quelqu'un sur quelque sujet que ce soit. C'est toujours une expérience de découverte incroyable sur une chose à laquelle j'avais jamais pensé, sur un métier que je connaissais pas, sur une histoire incroyable. Enfin, je me suis rendu compte que les gens avaient une capacité d'analyse de leurs propres expériences qu'on n'utilise jamais, mais qui est faramineuse en réalité.
C'est drôle parce que là, ça fait écho à il y a deux jours, à cette heure-là, j'étais à la même place avec Arnaud Bertina, qui sort un nouveau livre chez Vertical, et qui me parlait de du point de vue politique. Il a beaucoup enquêté avec des ouvriers, et il disait quasiment la même chose, pas tout à fait dans les mêmes termes, mais n'avoir jamais été déçu, notamment et incroyablement surpris par l'intelligence politique, y compris des gens de peu qu'ils rencontraient, c'est-à-dire par leur capacité aussi, c'est ce que tu viens de dire, d'analyse. Des gens dont on imagine qu'ils n'ont ni les mots, ni les... voilà, qu'ils subissent, ont quand même des capacités d'analyse, et donc il a fait là différencier, mais un même éloge de la parole.
Mais c'est pas on quand même, hein, c'est pas, en fait, il y a pas de niveau de, c'est-à-dire qu'en fait
c'était d'un point de vue politique, ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il disait bien, ouais. C'est des gens qui par ailleurs peuvent avoir tels us et coutumes du monde dont on pourrait se dire, depuis l'endroit où il regardait en tant que classe intellectuelle supérieure, petit bourgeois, etc., dont il aurait pu imaginer que. Et à chaque fois, vraiment, il l'a dit, à chaque fois, il y avait quelque chose qui lui apprenait quelque chose.
Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que l'entretien, c'est, on va dire, c'est un protocole qui est très, très motivant. C'est que... c'est qu'il n'y a pas d'autre... Enfin, moi, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre certaines choses que d'en passer par là. Par exemple, pour Que font les reines après Noël, j'avais fait un peu un travail préalable sur, justement, les lois qui concernent les rapports que nous avons avec les animaux dans les élevages. Donc ça, c'est intéressant de savoir des choses. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, pourquoi... telle personne est devenue éleveur ou éleveuse, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis qu'il fait ou elle fait de l'élevage. Et en fait, tout ça, les livres dans lesquels on accumule du savoir ne nous permettent pas d'y accéder. Et nous, quand on fait de la littérature, en fait, ce dont on a besoin quand même, c'est plutôt des histoires individuelles. On est plutôt dans un rapport à l'individu. Et c'est pour ça que, pour l'éloge des bâtards ou pour ce projet sur la ville de Brest, c'était important à chaque fois d'en passer par des histoires singulières et d'être attentif à ce qui se produit de complètement singulier dans ces histoires.
Et donc on revient à la voix, et du coup je faisais défiler les images que j'ai à disposition, et je vais revenir quelques... Non, mais c'est celle qui pouvait à ce moment-là. Il a fallu à un moment de ton parcours, donc là on revient quelques années en arrière, en passé, je l'évoquais au début, par la scène, la performance, et donc par des modes de prise de parole, c'est-à-dire d'interprétation de ton texte aussi. Ça s'est avéré nécessaire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait il y a eu beaucoup de collaborations comme ça. C'est pas, je suis venu faire une lecture publique une fois, il y a eu beaucoup de gens avec qui tu as collaboré. Là, c'est avec Chloé Moglia, qui donc est chorégraphe, c'était à Avignon, je pense. Et donc, ça a été une étape nécessaire de l'avancée de ton travail.
Oui, donc là, un exemple du rapport plutôt, alors cette fois-ci, soit au spectacle, soit à la performance, en se disant aussi que la littérature, elle se lit, elle se dit, et elle, j'ai envie de dire, c'est une manière d'adresser aussi plus directement les choses qu'on écrit, sachant que quand on écrit des livres, oui, bien sûr qu'on les adresse, mais... J'ai l'impression qu'on les adresse d'abord un peu à soi-même, comme une espèce de « ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et puis, bien sûr, on sait qu'il y a un public potentiel, mais là, on va dire l'avantage ou la différence, c'est que vraiment, on est dans un rapport direct avec des gens à qui on s'adresse. Et donc, dans ce spectacle-là, qui s'appelle donc « Le Vertige », en fait, moi, je m'adressais vraiment carrément au public et je leur racontais en fait une histoire. Et Chloé Moglia, elle était, comme vous voyez, mon double. Et elle était, comment dirais-je, elle travaillait donc à 5 mètres du sol, vous avez vu, sans aucune protection. Et comme moi, je parlais des raisons pour lesquelles j'ai le vertige, c'était comme une espèce à la fois de... C'était une compagne de travail, mais c'était presque une... on ne peut pas dire une adversaire, mais enfin quelqu'un qui mettait constamment en danger ma propre parole, parce que je me disais, mais je pensais, d'ailleurs à un moment je m'allonge sur les chaises, et je la regarde et je me dis, mais elle peut tomber quand même, en fait c'est ça qui peut arriver. Donc c'était un spectacle sur cette tension-là, puisque évidemment elle pense, elle sait qu'elle ne va pas tomber. Enfin, c'est ce qu'elle me dit pendant toute la préparation du spectacle, donc je la crois. Mais moi, j'ai quand même ce rapport un peu d'inquiétude. Et donc, en plus, la particularité de Chloé Moglia, c'est qu'elle fait des gestes. Là, on ne voit pas, évidemment, mais tout est très, 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 très lent. Elle fait des choses très lentes. Elle se déplace très lentement le long de cette structure. Et donc, pendant ce temps-là, je raconte mon histoire sur la chute, sur le vertige, sur le film d'Hitchcock, Vertigo, sur... Voilà. Et je sais qu'elle est là, et donc en fait, on a évidemment travaillé sur l'effet de miroir, sur des gestes qui se répondent, mais en fait, moi, je la vois jamais, très peu, sauf quand je suis allongée. Donc il y avait vraiment c'est un texte qui a été écrit avant le spectacle et qu'on peut lire dans Ils ne sont pour rien dans mes larmes, qui est un des livres que j'ai consacré au cinéma. Mais le fait de le passer à la scène a changé en fait. Je pourrais dire le point d'impact de l'objet et a produit une chose beaucoup plus tendue, beaucoup plus menaçante évidemment que le texte, qui est un texte un peu rétrospectif et analytique sur le vertige, donc qui peut être un peu mélancolique. C'est un texte assez mélancolique, mais c'est pas un texte où il y a du danger, c'est pas un texte où il y a du suspense. Alors que là, il y en avait, par exemple. C'était complètement différent comme...
Ça a été progressif comme chantier, parce que moi, j'ai souvenir d'une forme antérieure avec le film d'Hitchcock, et sans chorégraphe.
Il y a eu plusieurs formes de ce texte.
Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que je citais la Russe tout à l'heure, et je pourrais retrouver une citation, et je mettrai longtemps, mais qui est dans le livre, à un moment, des choses qui sont dites quasiment telles quelles par les personnages. Sur cette mise en forme-là, on parle des fractions, on parle de l'intime. On comprend au fur et à mesure que ça part d'une expérience, sans doute vécue, se dit-on, en tout cas d'une expérience intime, d'un rapport intime au vertige. Et si je me rappelle de ces performances, je trouve que c'est là où elle est la ruse, c'est-à-dire c'est, ça permet de faire deux choses avec, à la fois, si j'ose dire. Et c'est pour ça que tu parlais de l'adresse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois à dire la chose tout en mettant en œuvre sa distanciation, ce qui rend possible de la dire. Je me rappelle bien de l'espèce de volontaire froideur dans l'attitude immobile, etc. Et c'est peut-être aussi ce qui permet d'aller vers le texte mélancolique, au bout du compte. Parce que ça, c'est un texte qui chemine sur 10 ans d'écriture.
Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu l'objet même de la littérature, c'est-à-dire d'inventer des formes qui permettent de dire des choses dont on peut imaginer qu'elles sont extrêmement singulières, mais qu'en même temps, elles s'adressent quand même aux autres. Et que pour que la littérature arrive à produire ça, c'est-à-dire deux choses à la fois, le fait que ça soit tourné complètement vers celui qui écrit et le fait que ça vienne toucher quelque chose chez celui qui lit, pour produire ça, il faut inventer une forme. Enfin, c'est une histoire formelle, c'est ça qui fait que ça rend les choses possibles. Sinon, on se retrouve, sinon on est à la télé, il y a quelqu'un qui raconte la mort de son enfant et ça n'a pas de forme. Et là, il y a quelque chose qui touche peut-être aussi pour d'autres raisons, mais qui peut être un peu parfois obscène aussi. L'obscénité de... Enfin, je veux dire, la littérature, elle évite l'obscénité aussi parce qu'elle... Elle fabrique des filtres, en fait. Elle fabrique des filtres qui sont pas des écrans. Hein.
C'est pas de la dissimulation. C'est pour ça que voilà, je veux dire. C'est deux filtres. Choses à la fois. C'est à la fois pas d'obscénité, mais une sorte de frontalité, tout ouais. En la mettant à distance.
C'est ça. C'est pas des écrans. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est fait pour cacher. Mais un filtre au sens où un canal, j'ai envie de dire. Quelque chose qui permet que le récit circule. Sinon ça bloque tout et ça rend les choses ça les transforme en objets obscènes. C'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est une certaine manière de reconfigurer pour moi ce qu'on a eu l'habitude d'appeler l'autofiction. C'est une manière de dire non mais l'autofiction c'est pas de l'autofiction, c'est une fabrication, c'est l'invention d'un filtre. Et alors s'il y en a pas, moi il y a des livres autofictifs où il y a pas de filtre, moi je peux pas les lire par exemple, je ne peux pas les lire, c'est juste voilà. J'ai l'impression c'est pas vrai parce qu'il y en a que les gens lisent mais j'ai l'impression moi qu'on ne peut pas les lire parce qu'il y a pas le filtre et que ce filtre là c'est le respect aussi qu'on a à la fois à l'égard de sa propre histoire et peut-être à l'égard du lecteur, comme quelque chose qu'on va lui offrir.
C'est ça.
Dans une certaine forme, comme rituel de...
Je ne fais pas que vous raconter mon histoire personnelle.
Non.
Je fais autre chose. Ce faisant, effectivement, il y a aussi de l'histoire personnelle dont vous pouvez vous approprier. Et donc là, on est dans la fabrication de la littérature. Et on y revient et on boucle la boucle sur effraction. C'est-à-dire, c'est le sens que ça a, que... Il y a de la littérature avec ça. Et qu'il s'agisse après de fiction ou de non-fiction d'ailleurs, mais qu'il y ait une forme littéraire. C'est ce qu'on traverse depuis plusieurs jours dans les débats. Je boucle parce que je vois l'heure en fait.
Ah oui, oui.
Je vois l'heure et je sais que vous avez peut-être des questions à poser. Puis en plus, on en était là à 18h. On enchaîne avec Valérian Guillaume ici. Hein, c'est toujours. Ouais. Donc on va tenir l'heure. Et il reste même pas 10 minutes du coup le temps qu'il s'installe. Donc dans les 8 minutes restantes. Vous pouvez également poser une question ou avoir une réaction ou dire quelque chose à Olivia si vous en avez envie. Alors vous êtes dans le noir et nous on est éclairé, donc à la fois ça complique puis ça peut faciliter aussi.
L'idée en général, ce que
j'ai entendu, c'est donc une question sur l'idée et à quel moment elle vient par rapport aux entretiens.
Oui, est-ce que l'histoire a été fabriquée avant de faire les entretiens ou est-ce que l'histoire a été fabriquée après avoir fait les entretiens? En général, pour les livres, en général, je fais les entretiens, j'accumule les 300 pages de notes et après, je passe un certain nombre de semaines à regarder ces pages et en me disant, alors là, qu'est-ce que je vais faire. Donc, il y a un grand moment. Donc, c'est plutôt... Alors, pour celui-là, aussi, faire les entretiens et se dire, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que je cherche en faisant ces entretiens? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Donc, en fait, il y a tout un... C'est le moment. Il y a un moment intercalaire. Il y a vraiment un moment où il se passe rien. Enfin, sûrement qu'il se passe des choses, mais je sais pas lesquelles. Où c'est la panique, quoi. Enfin, c'est le vertige vraiment. C'est-à-dire vraiment là. Et et après, je peux pas vraiment expliquer comment, mais se met en place une forme. Donc au début, par exemple, je me suis bien dit, pour les bâtards, je me suis dit, j'avais pas tous les personnages, mais je savais que d'abord, il fallait pas que ça soit complètement systématique. Je savais qu'il fallait qu'il y ait des personnages qui parlent, et il y en a d'autres qui parleront jamais en vrai. Il y en a 9, il n'y a pas 9 histoires. Voilà. Donc déjà. Et puis je me suis dit, ça serait bien quand même que, pour une fois, allez, il y en a un qui se mette à parler. Donc il y a cette et donc là j'avais des modèles hein. Il y a le Décaméron, il y a l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, il y a plein de modèles de donc je me suis dit ah ça c'est intéressant de et puis voilà et après comme je vous disais le voyage à Hong Kong et puis après il y a des choses qui s'agglutinent, on sait pas trop bien comment et donc l'histoire elle est plutôt une conséquence en fait de tout ce que j'ai entendu en amont et qui, petit à petit, fabrique quelque chose.
Une autre question ?
Oui, si vous pouvez... Vous m'entendez ? Oui. Si vous pouvez revenir sur l'histoire du filtre, en fait, qui permet de passer du fait que je vous raconte mon histoire à je suis dans la littérature. Vous pouvez expliquer ce filtre, qu'est-ce que c'est ?
Expliquer... En tout cas, vous dire que... Par exemple, si je prends l'exemple des bâtards, l'autre solution, c'est quelqu'un me raconte une histoire qui, il y en a certaines qui sont assez douloureuses quand même, et puis j'essaye de voilà, je transcris l'histoire, et puis voilà, allez, prends ça et en fait, le canal, c'est la manière de mettre en fiction quelque chose qui a été raconté. Et qui peut-être est une chose vraie, mais au fond la question n'est pas là, quoi. Donc je sais pas si parce que.
Et quand vous dites qu'il y a des autofictions que vous pouvez pas lire parce qu'il y a pas de filtre apparemment, alors pourquoi vous pouvez pas les lire ? Qu'est-ce qui vous manque en fait ?
Il me manque, c'est ce que je vous dis, il me manque l'espèce de mise en forme, c'est-à-dire le travail de, en fait, je pourrais dire le travail comme tu disais, au fond de mise à distance de. Du récit, c'est-à-dire le petit écart entre l'histoire elle-même et la personne qui la raconte, ou le petit écart entre l'histoire elle-même et le point de vue de celui qui raconte sur cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me manque des fois, c'est un point de vue, c'est-à-dire un endroit où on se met et... par exemple, c'est comme si on était trop près... Et qu'on n'arrivait pas à le voir. Donc, de temps en temps, bon, c'est peut-être parce que je suis presbyte, hein, ça doit être ça. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si je suis trop près, je vois rien. Donc, il faut être quand même à une petite distance de l'objet pour le voir. J'ai envie de dire, c'est un peu ça le filtre. Et on peut, sinon, on n'arrive plus à voir.
Merci. Il est l'heure. Merci, Olivia. Vous pouvez retrouver Olivia. À la table de dédicace et dans 5 minutes ici même Valérian Guillaume qui est un...
Donc, à Valérian, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais c'est un des anciens étudiants du master de création littéraire qui a fait un livre de voix justement, c'est une voix, un personnage qui parle et qui raconte quelque chose qui est quand même assez inédit parce qu'il a une manière de le raconter tout à fait étonnante et c'est un livre sans points. Mais avec des espaces. Donc il y a vraiment quelque chose comme une traversée qui est assez réjouissante quand on lit le livre.
Voilà, c'est dans 5 minutes ici même. Et pour ce qui est d'Olivia, que je remercie encore, vous pouvez la retrouver à la table de dédicace à côté. Merci de votre attention. Merci Olivier.